questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur la radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Alors cette semaine, on va parler d'une nouvelle action modélisée de l'association France Alzheimer qui œuvre dans tous les départements français à vos côtés. Direction aujourd'hui les Yvelines, c'est notamment dans cette région que s'organise le suivi personnalisé des malades jeunes. Alors pour parler de cette thématique, nous sommes avec Gwenaëlle Musa qui est psychologue. Bonjour.
Bonjour.
Et en ligne avec nous, Pascal qui est malade jeune et son époux et aidant Alain. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui.
Et merci d'être avec nous. Pour commencer, peut-être Gwenaëlle, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est un malade jeune ? C'est finalement plus répandu qu'on ne le croit au niveau de la maladie d'Alzheimer ?
Alors oui, dans les textes en tout cas, qui est défini comme malade jeune, c'est dès lors qu'on a une pathologie neuroévolutive, donc là on parle d'Alzheimer, en deçà de 60 ans, lorsqu'elle se déclare avant l'âge des 60 ans. Et oui, en effet, c'est plus répandu que ce que l'on pense, et d'ailleurs on commence à en parler davantage, hein, que ce soit dans les médias ou dans la littérature, parce que nous, on s'aperçoit avec France Alzheimer, depuis qu'on assure le suivi personnalisé des patients jeunes, qu'on a en fait de nombreuses familles qui nous appellent, et ça ne cesse d'augmenter. Ça fait 2 ans nous, qu'on l'a mis en place sur les usines, et ça ne cesse d'augmenter.
Pascal, vous avez été diagnostiqué à quel âge pour cette maladie ?
J'avais 59 ans.
Et forcément, quand on a cet âge-là, et qu'on a ce diagnostic-là, quelle a été votre réaction ?
J'ai eu l'impression, en fait, que je tombais, en fait, dans une glacière. Je ne savais plus où j'habitais. J'étais complètement affolée de ce diagnostic. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, d'aller à la Riboisière, donc à l'hôpital de la Riboisière, où là, il y avait des possibilités, en fait, de... Malgré ce que j'avais, en fait, que je pouvais quand même encore faire plein de choses dans ma vie et c'était pas fini. Ben, à l'hôpital, ils m'ont proposé, en fait, de faire, je sais pas le dire,
un
en fait,
test mais, de
un test avec des médicaments. Et quand ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour être cobaye, j'ai dit oui, moi ça m'intéresse. Je n'en guérirai pas, mais j'ai très envie, en fait, de continuer à vivre normalement. Voilà. Et donc ça a été le début, en fait, de l'Alzheimer pour moi, en fait, d'avoir eu cette chance, en fait, de pouvoir avoir des protocoles pour m'aider, en fait, pour que je devienne pas complètement gâteuse ou complètement voilà. Mon objectif, c'était de continuer à vivre normalement le mieux possible. Et voilà, c'est ça a commencé comme ça.
Et c'est souvent ce qui revient dans le discours des malades, de continuer à vivre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Pour autant, quand on apprend à 59 ans qu'on a la maladie d'Alzheimer, comment ça bouleverse votre quotidien et celui de vos proches, bien évidemment ?
Ben, encore une fois, il a fallu que je me rende compte, en fait, de ce que c'était, parce que je ne voulais pas y croire. Je crois que dans ma tête, je ne voulais pas y croire. Et puis, en fait, j'ai réussi à avoir tout un tas de professionnels, en fait, qui m'ont aidé, qui ont fait ce qu'il fallait, en fait, pour que je ne reste pas justement complètement légume. J'ai pris ça comme une chance, en fait, plutôt que comme quelque chose d'épouvantable. Même si j'ai beaucoup pleuré la première fois avec l'annonce du diagnostic. Et puis après, je me suis dit, mais de toute façon, par rapport à quelqu'un qui a d'autres pathologies beaucoup plus graves, des cancers ou des choses comme ça où on peut pas guérir, moi je n'en guérirai pas, mais c'est pas grave, j'ai encore plein de choses à vivre.
Et c'est un beau message aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Gwenaëlle, je vais vous poser un peu la même question, puisque vous avez l'expérience aussi de Pascal, mais d'autres malades jeunes peut-être. Dans quelle mesure apprendre le diagnostic à un âge jeune, ça bouleverse un quotidien ?
Ça bouleverse le quotidien, parce qu'il va y avoir des retentissements dans plusieurs sphères qu'on n'aura pas forcément quand on est plus âgé, notamment la sphère professionnelle aussi. Et puis, parce que pour certains, il va y avoir une rupture brutale avec le monde professionnel, ou il n'y aura pas forcément une rupture brutale, mais la personne ne va pas se sentir bien dans son métier parce qu'elle va voir qu'elle est en difficulté, donc elle perd aussi confiance en ses potentialités. Donc il y a un premier retentissement aussi déjà dans le monde professionnel qu'il n'y a pas forcément quand on est patient plus âgé. Et il y a un retentissement, et ça il est indéniable, hein, dans la sphère familiale, parce que les rôles de chacun vont être aussi bouleversés. Et puis, ça va pas forcément de soi, dans notre pays, d'avoir des troubles cognitifs quand on a... Là, Pascal, elle a 59 ans, mais on a des patients qui ont 45 ans. Ça va pas de soi de s'apercevoir qu'on a des difficultés. Et quand on a 45 ans, on peut aussi avoir des enfants qui peuvent être en bas âge ou adolescents. Et là encore, il va y avoir un retentissement dans la sphère familiale, parce que son rôle parental, on pourra pas le tenir de la même manière que si on n'avait pas eu cette maladie.
Alors justement, dans les actions modélisées de l'association France Alzheimer, il y a ce suivi personnalisé des malades jeunes. Comment s'organise-t-il ?
Il s'articule autour de 14 heures, donc 7 heures renouvelables une fois. Bien souvent, c'est la famille qui interpelle l'association pour différentes raisons, soit parce que il y a une méconnaissance de la maladie et que les troubles commencent à faire peur, soit parce que ils ont été aiguillés par différents professionnels. Donc on met en place ce suivi. Notre intérêt à l'issue de ce suivi, c'est qu'il y ait un cercle de différentes ressources qui se créent autour de la famille. Alors, quand j'entends différentes ressources, j'entends dans la famille, c'est-à-dire que l'aidant, celui qui aide, celui qui est malade, puisse s'appuyer sur d'autres personnes aussi dans la famille pour aider au quotidien, pour aider dans différentes démarches administratives ou autres. Et puis aussi tout ce qui est ressources environnementales à l'extérieur de la famille, avec différents professionnels. Alors souvent, c'est orthophoniste, ESA par exemple, équipe spécialisée Alzheimer, peut-être par la suite une auxiliaire de vie, qu'on indique aussi aux familles l'existence d'accueil de jour, qu'on explique. On peut faire le lien aussi avec les professionnels. Donc voilà, l'idée à la fin du suivi personnalisé, c'est de prendre en considération toutes les ressources de la famille. Et avant ça aussi, c'est déjà écouter chaque personne concernée par la maladie. Donc souvent, c'est celui qui est malade. Donc là, par exemple, Pascal, celui qui aide. Donc là, monsieur, son époux, et on écoute leurs difficultés, ce qu'ils ressentent aussi depuis l'annonce du diagnostic, ce qu'ils ressentent par rapport au quotidien qu'ils vivent. Et après, on peut réfléchir sur les ressources qu'ils ont autour d'eux.
Oui, Alain, peut-être nous expliquer voilà, comment s'est organisé cet appel au suivi personnalisé.
Pascal était en train de parler du test thérapeutique d'un nouveau médicament que lui a été proposé par l'hôpital Lariboisière. L'équipe de neurologues. Mais cette équipe de neurologues est aussi présente au niveau, contact, et donc nous a renvoyé sur France Alzheimer pour les personnes de moins de 65 ans. Donc c'est comme ça que nous avons rencontré les personnes de France Alzheimer Yvelines qui s'occupent des malades de moins de 65 ans et qui nous ont proposé donc ce suivi de 14 heures de rencontres à domicile qui permettent à Pascal de rencontrer des gens qui vont l'aider à comprendre sa maladie et ensuite à mieux appréhender les tenants et aboutissants de la maladie. Et pareil pour moi, en tant qu'aidant, j'ai reçu également cette aide de la part de l'association France Alzheimer.
Et Alain, est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que proche aidant, ce que ces suivis personnalisés vous apportent et apportent à Pascal également ?
Ça se passe à chaud. Vous rendez compte, on a eu le diagnostic en 2018, on est en 2022, on est en plein dedans, quoi. On est en train de comprendre l'évolution de la maladie, de comprendre ce qui va se passer dans le futur et ce qui évidemment nous inquiète. Donc l'association France Alzheimer, d'abord c'est des gens qui sont bénévoles, très dévoués. Ils connaissent exactement la maladie, ils ont tous une expérience personnelle dans ce domaine-là. Alors moi, je participe à un groupe de parole au niveau de la commune, là, à côté de chez nous, dans un EHPAD, je rencontre d'autres personnes aidantes. Simplement, le cercle de parole et la parole libre aident énormément au niveau psychologique, s'apercevoir qu'on n'est pas seul et qu'il existe des solutions et qu'il existe des choses qui peuvent s'inscrire dans la durée. Ça, c'est la première solution, la première partie. La deuxième partie, c'était une formation pour les aidants qui a été organisée par France Alzheimer, qui se composait d'une succession de séances, 5 après-midi hebdomadaires, qu'est-ce que c'était que la maladie, comment elle impactait les personnes et en quoi le rôle des aidants était décisif. Et puis également, donc, tous ces entretiens à domicile avec une bénévole et une psychologue, de France Alzheimer, donc Gwenaëlle Muzès, pour la citer, qui nous permettent de mettre notre vie en perspective, voir un petit peu les différentes variations qui se passent, leurs suggestions, leurs propositions, leurs idées pour améliorer notre quotidien, et puis l'effet que ça a sur nous.
Gwenaëlle, vous qui côtoyez aussi aidants et malades, justement ces familles qui deviennent aidantes, comment on gère cela quand on n'est pas du tout préparé ?
Eh ben, c'est justement là où c'est difficile, c'est qu'on n'est pas préparé et quand on est débarqué comme ça dans l'univers de la maladie, eh bien on ne la connaît pas cette maladie. On en a entendu parler, tout le monde en entend parler, on a vu des films. Tout le monde a déjà vu des films sur la maladie d'Alzheimer, mais quand on la vit au cœur, c'est vraiment différent. Donc, je rebondis sur ce que nous a dit monsieur tout à l'heure, c'est que quand nous, on vient à domicile, on vient toujours avec, en tant que psychologue, on vient toujours avec une bénévole qui connaît la maladie et qui l'a vécue. Donc, ce qu'on propose à l'aidant, c'est d'ores et déjà une connaissance de la maladie, soit des formations des aidants, soit par des groupes de parole, pour comprendre le processus de la pathologie, pour aider au mieux dans la vie quotidienne. Parce que vraiment, on débarque dans la maladie quand on la découvre, peut-être encore plus quand on est patient jeune, parce qu'il y a vraiment une rupture avec les projections du futur. Voilà, les gens ne sont pas encore à la retraite, c'était pas du tout ce qui était programmé. Il y a une rupture, la maladie vient faire rupture dans le projet de vie aussi du couple, en fait.
Alain, vous, en tant qu'aidant, cette vie se repense, si j'ose dire, quelles sont les premières choses à réorganiser ?
Il y a beaucoup de choses, madame. L'emploi du temps, la sécurité, au sens le plus essentiel du terme. Je pense notamment à remplacer les brûleurs gaz de la cuisinière par des plaques à induction, supprimer tous les produits toxiques de la cuisine, tous les produits type eau de Javel et autres. Il y a des choses... Alors, je ne les ai pas inventées. J'ai lu des livres... notamment des livres de Madame Romanoff, j'ai oublié son prénom, mais la mère de la comique.
Anne.
La mère de Anne, voilà, a écrit un certain nombre de choses sur la maladie d'Alzheimer pour l'avoir subie avec son mari, qu'elle a accompagné en tant qu'aidant. C'était extrêmement instructif. Après, il y a donc une relativité par rapport à ce que vient de dire Gwenaëlle, par rapport au projet. On imagine une retraite heureuse. Tout allait bien, nos enfants vont bien, les choses sont passées différemment. Donc là, on vit un petit peu au jour le jour. Un impact de cette maladie, c'est l'absence de visibilité. Mais je crois que toutes les maladies sont comme ça, y compris les plus graves. Et on ne sait pas de quoi sera fait demain, ni après-demain. Ça relativise l'importance des choses.
On sent votre émotion aussi à nous raconter cela. Et Gwenaëlle, justement, c'est important de rebondir sur ce que vient de dire Alain, de dire que c'est important d'accompagner ces familles.
Oui, important de les accompagner aussi. Peut-être qu'elles se confrontent à d'autres vécus, à des personnes qui vivent aussi des choses similaires, pour s'apercevoir qu'on n'est pas seul. Et puis, il y a quelque chose qu'a dit monsieur et qui est vraiment d'une grande importance, et c'est un message qui est très intéressant, je trouve, à faire passer. C'est que voilà, avec la maladie, les projections pour le futur, le devenir sont un petit peu mises à mal. Mais même si les projections pour le futur sont mises à mal, il s'avère qu'on peut toujours vivre l'instant présent et qu'on peut vivre des choses sympathiques aussi dans l'instant présent, quand bien même on a une maladie qui, certes, de prime abord, a complètement bouleversé le quotidien. Les accompagnements, que ce soit France Alzheimer ou d'autres qui peuvent être proposés, c'est vraiment... Écouter les souffrances aussi de chacun, de la famille, diriger vers des dispositifs pour comprendre davantage la maladie, que ce soit pour l'aidant, mais aussi pour celui qui la vit, comprendre sa maladie, et puis pouvoir projeter à minima dans le futur des petites choses, des petits plaisirs, et puis surtout s'interroger sur l'instant présent et les choses qu'on peut vivre là dans l'instant présent.
Et une dernière question pour vous, Pascal. Quel message pourriez-vous passer aux malades jeunes comme vous qui nous écoutent ? Que leur dire dans cette situation ?
Alors que moi, après la bouche froide en fait que j'ai vécu quand j'ai eu le diagnostic, Après, je me suis dit que j'avais de la chance parce que, un, on est en France, on a des hôpitaux, il y a des médecins qui sont là, des orthophonistes, enfin voilà, il y a tout un panel en fait de professionnels qui sont là aussi pour aider. Je prends cette chance-là de se dire qu'il y a tout un tas de pathologies et de maladies en fait qui sont incurables. Alzheimer, de toute façon, on ne pourra pas changer les choses, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est sympa, d'avoir des amis, de partir en vacances, il faut prendre ça, il faut le prendre et en profiter.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
Je vous en prie.
Merci.
Merci.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Et puis continuez de nous envoyer vos questions, de nous écouter. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast. Ça se passe sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.